24 heures. Elle restait impassible. Il changea de manœuvre. Moi, du reste, je ne comprends pas ce qui le pousse à réclamer cette somme, car enfin il n'en a aucun besoin.
Comment ? Monsieur Moreau s'est montré assez bon.
Oh, d'accord. Et Delaurier entama son éloge, puis vint à le dénigrer, tout doucement, le donnant pour oublieux, personnel, avare.
Je le croyais votre ami, monsieur.
Cela ne m'empêche pas de voir ses défauts.
Ainsi, il reconnaît bien un peu, comment dirais-je, la sympathie.
Madame Arnoux tournait les feuilles du gros cahier. Elle l'interrompit pour voir l'explication d'un mot. Il se pencha sur son épaule et si près d'elle qu'il effleura sa joue. Elle rougit. Cette rougeur enflamma des lauriers. Il lui baisa la main voracement.
« Que faites-vous, monsieur ?»
Et debout contre la muraille, elle le maintenait immobile, sous ses grands yeux noirs irrités.
« Écoutez-moi, je vous aime. »
Elle partit d'un éclat de rire, un rire aigu, désespérant, atroce. Des lauriers sentit une colère à l'étrangler. Il se contint, et avec la mine d'un vaincu, demandant grâce.
« Ah, vous avez tort. Moi, je n'irai pas comme lui. »«
De qui donc parlez-vous ? » ?»« De Frédéric. »«
Eh, M. Moreau m'inquiète peu, je vous l'ai dit. »«
Oh, pardon, pardon. » Puis, d'une voix mordante, et faisant traîner ses phrases,
« Je croyais même que vous vous intéressiez suffisamment à sa personne pour prendre avec plaisir. »
Elle devint toute pâle. L'ancien clerc ajouta
« Il va se marier. »«
Lui ?»«
Dans un mois, au plus tard,
avec Mademoiselle Roch, la fille du régisseur de M. d'Ambreuse. Il est même parti pour nos gens, rien que pour cela. » Elle porta la main sur son cœur, comme au choc d'un grand coup. Mais tout de suite, elle tira la sonnette. Des lauriers n'attendit pas qu'on le mît dehors. Quand elle se retourna, il avait disparu. Madame Arnoux suffoquait un peu. Elle s'approcha de la fenêtre pour respirer. De l'autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manche de chemise clouait une caisse. Des fiacres passaient. Elle ferma la croisée et vint se rasseoir. Les hautes maisons voisines interceptant le soleil, un jour froid tombait dans l'appartement. Ses enfants étaient sortis. Rien ne bougeait autour d'elle. C'était comme une désertion immense. Il va se marier, est-ce possible ? Et un tremblement nerveux la saisit. Pourquoi cela ? Est-ce que je l'aime ? Puis tout à coup, mais oui, je l'aime, je l'aime. Il lui semblait descendre dans quelque chose de profond, qui n'en finissait plus. La pendule sonna 3 heures. Elle écouta les vibrations du timbre mourir. Elle restait au bord de son fauteuil, les prunelles fixes et souriant toujours. La même après-midi, au même moment, Frédéric et Mademoiselle Louise se promenaient dans le jardin que M. Roch possédait au bout de l'île. La vieille Catherine les surveillait, de loin. Ils marchaient côte à côte et Frédéric disait « Vous souvenez-vous que je vous emmenais dans la campagne ?»«
Comme vous étiez bon pour moi, » répondit-elle.
« Vous m'aidiez à faire des gâteaux avec du sable, à remplir mon arrosoir, à me balancer sur l'escarpolette. »
Toutes vos poupées qui avaient des noms de reines et de marquises, que sont-elles devenues ?
Ma foi, je n'en sais rien.
Et votre roquet, Morico ?
Il s'est noyé, le pauvre chéri.
Et le Don Quichotte, dont nous colorions ensemble les gravures ?
Je l'ai encore. Il lui rappela le jour de sa première communion, et comme elle était gentille aux vêpres, avec son voile blanc et son grand cierge, pendant qu'elle défilait tout autour du cœur et que la cloche tintait. Ses souvenirs, sans doute, avait peu de charme pour Mademoiselle Roch. Elle ne trouva rien à répondre, et une minute après,
« Méchant, qu'il ne m'a pas donné une seule fois de ses nouvelles. »
Frédéric objecta ses nombreux travaux.
« Qu'est-ce donc que vous faites ?»
Il fut embarrassé de la question, puis dit qu'il étudiait la politique.
« Ah !»
Et sans demander davantage,
« Cela vous occupe, mais moi ?»
Alors elle lui conta l'aridité de son existence, n'ayant personne à voir, pas le moindre plaisir, la moindre distraction. Elle désirait monter à cheval. Le vicaire prétend que c'est inconvenant pour une jeune fille. Est-ce bête, les convenances ?
Autrefois, on me laissait faire tout ce que je voulais. À présent, rien.
Votre père vous aime, pourtant.
Oui, mais...
Et elle poussa un soupir qui signifiait « Cela ne suffit pas à mon bonheur. » Puis il y eut un silence. Ils n'entendaient que le craquement du sable sous leurs pieds avec le murmure de la chute d'eau, car la Seine, au-dessus de nos gens, est coupée en deux bras. Celui qui fait tourner les moulins des gorges en cet endroit
la surabondance de ses ondes pour rejoindre plus bas le cours naturel du fleuve. Et lorsqu'on vient des ponts, on aperçoit, à droite, sur l'autre berge, un talus de gazon que domine une maison blanche. À gauche, dans la prairie, des peupliers s'étendent, et l'horizon en face est borné par une courbe de la rivière. Elle était plate comme un miroir. De grands insectes patinaient sur l'eau tranquille. Des touffes de roseaux et des joncs la bordent inégalement. Toutes sortes de plantes venues là s'épanouissaient en boutons d'or, laissaient pendre des grappes jaunes, dressaient des quenouilles de fleurs amarantes, faisaient au hasard des fusées vertes. Dans une anse du rivage, des nymphéas s'étalaient, et un rang de vieux saules cachant des pièges à loups était, de ce côté de l'île, toute la défense du jardin. En deçà, dans l'intérieur, quatre murs à chaperon d'ardoise enfermaient le potager, où les carrés de terre, labourés nouvellement, formaient des plaques brunes. Les cloches des melons brillaient à la file sur leur couche étroite. Les artichauts, les haricots, les épinards, les carottes et les tomates alternaient jusqu'à un plant d'asperges qui semblait un petit bois de plumes. Tout ce terrain avait été, sous le directoire, ce qu'on appelait une folie. Les arbres, depuis lors, avaient démesurément grandi. De la clématite embarrassait les charmilles, les allées étaient couvertes de mousse, partout les ronces foisonnaient. Des tronçons de statues émiettaient leurs plâtres sous les herbes. On se prenait en marchant dans quelques débris d'ouvrage en fil de fer. Il ne restait plus du pavillon que deux chambres au rez-de-chaussée avec des lambeaux de papier bleu. Devant la façade s'allongeait une treille à l'italienne où, sur des piliers en briques, un grillage de bâtons supportait une vigne. Ils vinrent là-dessus tous les deux et comme la lumière tombait par les trous inégaux de la verdure, Frédéric, en parlant à Louise de côté, observait l'ombre des feuilles sur son visage. Elle avait dans ses cheveux rouges, à son chignon, une aiguille terminée par une boule de verre imitant l'émeraude, et elle portait, malgré son deuil, tant son mauvais goût était naïf, des pantoufles en paille garnies de satin rose, curiosité vulgaire, achetées sans doute dans quelque foire. Il s'en aperçut et l'en complimenta ironiquement. « Ne vous moquez pas de moi, » reprit-elle. Puis, le considérant tout entier, depuis son chapeau de feutre gris jusqu'à ses chaussettes de soie. « Comme vous êtes coquet !» Ensuite, elle le pria de lui indiquer des ouvrages à lire. Il en nomma plusieurs et elle dit « Oh, comme vous êtes savant !» Toute petite, elle s'était prise d'un de ces amours d'enfant qui sont à la fois la pureté d'une religion et la violence d'un besoin. Il avait été son camarade, son frère, son maître, avait amusé son esprit, fait battre son cœur, et verser involontairement jusqu'au fond d'elle-même une ivresse latente et continue. Puis, il l'avait quittée en pleine crise tragique, sa mère à peine morte. Les deux désespoirs